enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu.
Manchime.
Si nous voulons voir Dieu agir,
et
c'est ce que le pasteur Olivier disait, nous devons comprendre les principes par lesquels il agit. Amen. Et Dieu agit au travers de notre foi. Il n'agit pas au travers de nos mérites, ni au travers de notre vie religieuse, quelle qu'elle soit.
C'est
pas parce que l'on prie qu'on va voir Dieu agir.
C'est
pas parce que l'on on jeûne que l'on va voir Dieu agir. Ce n'est pas parce que on va à l'église qu'on va voir Dieu agir. Mais Dieu agit au travers de notre foi.
Et
bien sûr, quand on est quelqu'un qui marche dans la foi, on prie, on jeûne, on va à l'église. Mais il faut mettre les choses à leur place. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui prient et qui ne voient jamais Dieu agir. Comme je connais aussi des gens qui vont à l'église qui ne voient jamais Dieu agir. Ou d'autres qui jeûnent et qui ne voient pas non plus davantage Dieu agir. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de relation et de compréhension. Savoir qui est Jésus, ce que dit sa parole, ce qu'elle veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. Comprendre ces choses et fonctionner avec. Ce matin, nous allons lire dans Hébreux chapitre 12. Si vous avez amené vos Bibles, j'espère d'ailleurs, on va lire ensemble Hébreux chapitre 12, le verset 2, qui nous dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » C'est là que la foi commence. Quand on fixe nos yeux, nos regards sur Jésus. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut fixer nos regards sur Jésus? Parce que Jésus n'est pas visible. Il y a plusieurs façons de le faire. Parce que nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux.
Mais
là où nous avons besoin de voir, c'est avec notre cœur. Si vous lisez les évangiles, vous verrez de quelle façon un certain nombre de personnes ont fixé leur regard sur Jésus par rapport à différentes situations qu'ils vivaient. Et comment par le fait qu'ils ont fixé leur regard sur Jésus, Jésus a pu agir. La semaine dernière, le pasteur Olivier partageait avec vous l'expérience de cette femme qui était très malade puisqu'elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Aucun médecin n'avait rien pu faire sur elle. Mais cette femme avait entendu dans son cœur elle avait entendu parler de Jésus. Et dans son cœur, il y a quelque chose qui a commencé à travailler, à se manifester. Jésus est ta solution. Jésus est celui qui peut agir en ta faveur. Et elle a agi sur ce qu'elle a entendu. Différentes personnes, dans différents temps, sont venus à Jésus parce qu'ils avaient un problème. Et le fait de leur démarche était que leur regard était sur Jésus. Il y avait des circonstances qui étaient là, c'est sûr. Il y avait du désespoir parfois qui était là, c'est sûr. Mais ils ont su dépasser ces choses pour fixer leur regard sur Jésus. Donc ce verset d'Hébreux 12 nous dit que Jésus suscite. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça nous montre une chose, c'est qu'au moment où notre foi est suscitée et le moment où notre foi arrive à la perfection, il y a une période de temps et on va lire ensemble dans Jacques chapitre 2. Nous allons lire du verset 14 au verset 22. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu.
Turasoma. Vyomariki gabene data namba umuntu avuga ko afise ukwizera atabikorwa akora mbega uko kwizera kushobora kumumarira iki ni haba hari mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa agenda aburanirwa kuvyo kurya maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda mahoro ususuruke uhage ariko ntimumuhe ivy'umubiri ukena vyomariki nico Niko bimeze n'ukwizera kutagira ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Aburahamu sokuruza mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa hamwe yatanga kwikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro. Ntubona ko kwizera kwafatanijwe n'ibikorwa vyiwe kandi ukwizera kwahinduwe rwose n'ibikorwa kandi canditswe kirashitse kivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka kandi yitwa umukunzi w'Imana.
Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ne font rien. Quand on vient de lire ce passage,
on
nous parle de la foi et nous parle des œuvres. Ça veut dire de faire quelque chose. Et beaucoup de personnes croient, prient, cherchent Dieu, s'appuient sur sa parole et ne font rien du tout. Et ça reviendrait exactement au même que de dire voici j'ai un bras, si Dieu veut que je lève mon bras il va me faire lever mon bras. Et tu peux être là en disant Dieu, si tu veux que je lève mon bras, fais-moi lever mon bras. Et tu peux faire cette prière pendant même un siècle, ton bras ne bougera pas. Parce que Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné des muscles et des nerfs qui font que quand notre cerveau décide de faire bouger notre bras, c'est nous qui le faisons. Dieu ne te fera jamais rien faire. Vous savez, il y a cette expression que souvent des chrétiens utilisent. Dieu va me faire faire. Il y a souvent cette expression, je vais la reprendre telle quelle. Si Dieu le veut, il me fera arriver à tel endroit. Dieu ne te fera jamais arriver nulle part. Amen. C'est à nous chacun pour notre part de savoir ce que nous croyons et d'agir sur ce que nous croyons et sur ce que nous voulons. De la même façon que si tu veux lever ton bras, tu n'as qu'un geste à faire. Tu le lèves et c'est fini. Parce que tu en as cette capacité. Amen. Dieu nous a donné une capacité incroyable en Jésus-Christ. Du fait que nous sommes nés de nouveau, du fait que notre esprit a été recréé, nous avons une capacité que le monde n'a pas, que nous n'avions pas avant notre nouvelle naissance. Il nous a donné la capacité de marcher par la foi. Vous voyez, quand on parle de la foi, on parle du fait de marcher. Marcher par la foi. La Bible ne dit pas de s'asseoir par la foi. La Bible ne dit pas attends par la foi. Mais elle dit marche par la foi. Et quand on parle de marcher par la foi, on ne parle pas d'accomplir les choses que seul Dieu peut accomplir. Mais on parle du fait de donner à Dieu le moyen d'accomplir ce pourquoi nous croyons. Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu dit, la chose arrive. Amen.
Amen.
Dieu nous a donné une bouche pour célébrer ses louanges et pour parler sa parole. Afin que quand nous parlions sa parole, la chose que nous disons puisse être manifestée. On a parlé de la confession pendant plusieurs semaines. Maintenant, aujourd'hui, je veux vous parler d'action. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée chez les chrétiens qui disent qu'ils croient Dieu, que ce soit pour leur famille, que ce soit pour leur travail. Et le domaine le plus frappant, que ce soit pour la guérison. Oui, je crois que Dieu me guérit. Je crois la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ils disent avec leur bouche qu'ils croient, mais dans leurs actions, ils montrent tout le contraire. Récemment, il y a une personne qui est venue me voir et qui me disait vraiment, j'ai un problème. Mon enfant est malade, il a tel et tel problème. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Est-ce que tu pourrais prier pour cet enfant? Et je n'ai pas de problème de prier pour les personnes. Mais quand elle m'a dit qu'elle avait été faire le tour de tous les médecins de la ville, je lui ai dit la chose suivante. Je prierai pour ton enfant quand tu seras prête. Parce que je voyais qu'au travers de ce qu'elle disait, qu'elle n'était pas prête à croire. Et je vais vous donner un témoignage de quelque chose que j'ai vu. C'est que souvent les personnes veulent qu'on prie pour eux, qu'on prie pour telle autre personne, mais ils ne sont pas prêts à croire. Ils utilisent la prière où ils demandent la prière parce que tout ce qu'ils ont essayé auparavant n'a pas fonctionné. Et ils demandent la prière au cas où peut-être ça pourrait marcher. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a quelque temps, plusieurs années, je pense 2 ans maintenant, j'étais allée à la prison pour prêcher là-bas. Et à la fin de la réunion, on a prié pour les malades. Et il y avait des personnes, plein de personnes qui se sont approchées. Il y avait aussi un homme qui était sur un fauteuil roulant qui était paralysé depuis 2 ou 3 ans. Mais lui, il n'a pas eu la chance de s'approcher en premier. Les autres sont venus devant lui parce que les autres pouvaient marcher. Cet homme s'est trouvé enterré tout au fond parce qu'il était coincé par les autres qui se sont levés. Et quand ces personnes se sont approchées, j'ai vu nettement qu'ils n'avaient aucune foi. Ils s'approchaient juste pour voir. Vous savez, on peut se raconter soi-même des histoires et penser qu'on croit alors qu'au fond de notre cœur, On ne croit rien du tout. Et ça, c'est quelque chose que je percevais, je le voyais.
Et
d'une certaine manière, je n'avais pas vraiment envie de prier pour les gens parce que je savais que c'était inutile. Et vous savez, quand on sert le Seigneur, on ne peut pas dire non, je ne vais pas prier pour vous. Donc, j'ai prié pour ces personnes. Et ils sont tous retournés à leur place. Dans le même état que quand ils sont venus.
Et
il ne restait plus que cet homme qui était sur sa chaise roulante.
Et
quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était prêt. J'ai vu qu'il croyait.
Vous
savez, tous les autres se sont approchés comme ça en n'attendant rien du tout. Mais cet homme qui était sur son fauteuil roulant, il y avait une attente, il y avait une foi qui était là. Alors je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Et il m'a dit, oui, je le crois. Alors, j'étais avec d'autres personnes qui étaient venues m'accompagner à la prison. Et il y avait un frère qui était là.
Et
je lui ai dit, écoute, viens avec moi, viens à côté. De l'autre côté de cet homme. Et tu vas m'aider. Et je lui ai dit, à celui qui était dans le fauteuil, tu ne peux pas rester assis dans ce fauteuil. Si tu crois que le Seigneur te guérit, lève-toi. Et on l'a fait sortir. Je vous assure qu'on l'a, tiré de son fauteuil. Parce que même ça lui-même, il ne pouvait pas le faire. Et ses jambes étaient tellement raides. Il est sorti de son fauteuil. Et il ne pouvait pas marcher. Et c'est nous qui le portions. Mais il a commencé à agir. Parce que dans son cœur, il croyait. Quand on croit en quelque chose, forcément on agit. Amen. Il a commencé à agir. Il a commencé à bouger sa jambe. Et c'était vraiment difficile. Il a fait le premier pas. C'est nous qui le portions plus qu'il ne se portait. Mais au deuxième pas, ses jambes ont commencé à se raffermir. Au troisième pas, on était juste en train de mettre notre main comme ça parce que il n'avait pas d'équilibre, mais il marchait tout seul. Et au cinquième pas, il n'avait plus besoin d'aucune aide. Et tout à coup, il s'est mis à courir. Il s'est mis à sauter. Il s'est mis à danser. Et tous les gens qui étaient là se sont mis à crier. Parce qu'ils ont vu quelque chose et ça a suscité en eux de la foi agissante. Et tous ces gens qui étaient venus dans un premier temps complètement désespérés, en portant leur misère, ils se sont approchés avec une autre attitude. Il y avait un homme qui était là avec ses béquilles. Il ne pouvait pas marcher. Il a commencé à se dépêcher, venir avec ses béquilles. On a prié pour lui, j'ai prié pour lui. Et il a acheté ses béquilles. Il était entièrement guéri. Il y en avait un autre, c'était un vieux monsieur qui était aveugle. On a prié pour lui. Il a retrouvé la vue instantanément. Vous savez, quand on croit, on agit. Et quand ces gens-là qui étaient là ont vu qu'il faut agir sur leur foi, alors les miracles ont commencé à se manifester les uns après les autres. Et ce Dieu-là, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Ce n'est pas moi ni qui que ce soit d'autre qui a guéri qui que ce soit. Parce que nous ne sommes que des personnes. Celui qui guérit, c'est Jésus. À lui seul soit la gloire. Quand ce genre de choses arrivent, mais ça devrait arriver tellement plus souvent. Ça devrait arriver chaque jour. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, c'est le déclenchement, la petite action que tu dois faire pour que Dieu puisse agir. Vous savez, tous les jours, on fait des tas de choses parce qu'on croit. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, en ce moment, en Europe, il fait nuit assez tard. C'est pas encore l'hiver, entièrement l'hiver.
Mais
il y a des périodes de l'année où il commence à faire jour, il est 8h30, 9h moins le quart le matin. Dans les jours les plus courts. Alors que dans les jours les plus longs, vers 6h, il fait jour sans problème.
Et
que ce soit en été, que ce soit en hiver, les gens se lèvent pour aller travailler. Parce qu'ils savent que à 8h ou 8h30 le matin, ils doivent être sur leur lieu de travail. Imaginez un instant que quelqu'un arrive en Europe et qu'il voie, tiens, il est
6h30,
il fait encore nuit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé. Parce que depuis le temps que la Terre existe, le soleil se levait à 6h. Pourquoi est-ce que maintenant il fait nuit? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais attendre un peu, et si finalement le jour se lève, alors peut-être je vais me lever. Imaginez que quelqu'un réagisse comme ça. Parce qu'il agit seulement sur ce qu'il voit. Et non pas sur ce qu'il croit. Alors il attend 7h. Et à 7h, il fait encore nuit. Et il se dit, non, vraiment, c'est impossible. Il ne va pas faire jour aujourd'hui. Et il retourne se coucher. Et il se rendort. Et finalement, quand il se réveille à 11h30 ou midi, il voit qu'il fait jour. Et il se dit, maintenant, c'est trop tard pour aller me préparer et aller au travail. Parce que je ne peux pas me présenter à mon travail à 14h. Donc il laisse passer la journée. Et il se dit, peut-être que demain, finalement, il fera jour à 6h. Ça, c'est le raisonnement humain. Et s'il passe comme ça, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, sans aller travailler, il va perdre son travail. Amen. Mais vous savez, comme moi, que qu'il fasse jour ou qu'il ne fasse pas jour, à 6h ou à 7h, le jour se lève quand même. Et en Europe, les gens se lèvent pour aller sur leur lieu de travail, parce qu'ils savent que le soleil va se lever. Amen. Amen.
Amen.
Mais si on devait agir seulement sur la vue, sur l'impression du moment présent, en hiver, en Europe, on ne se lèverait jamais. Parce qu'on pourrait se poser la question, finalement, dans l'apparence, le jour ne va pas se lever. Et pourtant, le jour se lève. Amen. Là, je vous donne un exemple qui n'est pas un excellent exemple. Parce que par habitude, les gens savent toujours comment les choses se produisent. Mais on pourrait aussi ne pas le savoir. Amen. Quand on parle d'Abraham, puisqu'on parle d'Abraham dans ce passage, au verset 21, il est dit, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?»
Ngo Aburahamu sokuruza ngo mbega ntiyatsindanishijwe n'ibikorwa hamwe yatanga ikimaze umwana wiwe Isaka ku gicaniro.
Dans Genèse chapitre 22,
mu itangiriro 22,
on lit une histoire,
turasoma inkuru,
dans laquelle Dieu,
aho Imana,
va parler à Abraham,
ivugana na Aburahamu.
Et Dieu dit à Abraham,
Imana ikabwira Aburahamu,
je voudrais que tu prennes ton fils,
ndagomba kufata umuhungu
wawe, celui que tu aimes,
umukunda cyane,
Isaka, que tu ailles dans tel endroit.
Umujane muri iki kibanza.
Et l'endroit en question, c'est le mont Morija.
Yari musoze
w'Imana. Et là, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice.
Aho uraza gutanga umwana w'umuhungu nk'ikimaze.
Vous savez, quand on lit cette histoire,
umuntu asomye iyi nkuru,
on peut se dire, mais Bon, Dieu n'était pas sérieux. Nous savons tous que Dieu est un Dieu de vie, qu'il n'est pas un Dieu de mort. Et que d'aucune façon, Dieu peut demander à quelqu'un de sacrifier, de tuer ses enfants. Mais Abraham ne voyait pas les choses comme cela. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où Abraham a vécu, c'était quelque chose d'habituel. Les peuples qui vivaient dans ces endroits, dans ces contrées, c'était habituel d'offrir son fils ou sa fille en sacrifice à un quelconque dieu, un dieu qui n'existait pas. Donc, quand Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, pour Abraham, c'était sérieux. Il croyait vraiment que son fils allait mourir.
Mais
derrière cela, il croyait aussi autre chose.
Et
on va lire ensemble dans Hébreux au chapitre 11, au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Quand Abraham a offert son fils, il a été jusqu'au bout. Il est monté sur cette montagne. Il a construit cet autel. Il a ramassé du bois. Il a lié son fils sur l'autel. Il a pris son couteau. Et il allait vraiment sacrifier son fils. À aucun moment, il pensait qu'un ange allait lui apparaître du ciel pour lui dire « Retiens ta main ». Il était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il avait dans son cœur une vision que Dieu était capable de ressusciter son fils une fois qu'il l'aurait offert. Voyez, Abraham a agi sur ce qu'il croyait. Amen.
Amen.
Quand Dieu lui a dit « Offre ton fils »,
il
l'a fait parce qu'au fond de son cœur, il était persuadé que Dieu allait ressusciter son fils. La foi est une action et elle doit être une action qui correspond à ce que nous croyons. Comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes qui disent et cette personne en question qui m'a dit
«
Je voudrais que tu pries pour mon enfant. » Et après cela, elle me dit qu'elle a fait tout le tour des médecins. Et au fond de mon cœur, je sais que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête à croire. Elle veut qu'on prie parce qu'elle a tout essayé. Et le tout qu'elle a essayé n'a pas fonctionné. Mieux vaut se confier dans le Seigneur dans un premier temps. Parce que c'est là que vient véritablement la foi. Quand tu places dans le Seigneur en premier lieu ton espérance, ton assurance, ta confiance, j'ai confiance en toi Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette situation, je ne sais pas comment tu veux agir dans cette situation. Ça c'est la première étape, celle de fixer nos yeux sur Jésus. Je fixe mes yeux sur toi. Je refuse de regarder à ces circonstances. Parce que vous savez, parfois les circonstances, elles sont mauvaises. Et elles peuvent être même très mauvaises. Carrément effrayantes. Ça, ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent dans la vie de tous les hommes.
Donc,
commencez par fixer vos yeux sur le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce que je dois prier? Seigneur, comment est-ce que toi tu vois les choses? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu agir? C'est de cette manière-là que nous fixons nos yeux sur le Seigneur. Et c'est la première chose que nous devons faire. Pourquoi est-ce que c'est bien souvent la dernière chose? D'abord, on essaye tout ce que l'on peut. Et quand on voit que ça ne fonctionne pas, alors on se dit, on va prier. Pourquoi faire passer Dieu en premier? En dernier, pardon. Alors qu'on pourrait et on devrait le faire passer en premier. Je disais il n'y a pas longtemps aussi quelque chose, un témoignage personnellement de quelque chose que j'ai vécu. Parce que souvent on se dit, Seigneur va me dire des choses vraiment difficiles, des choses extrêmement compliquées. Alors que bien souvent, ce sont des choses simples, des choses qui sont à la portée de notre main. Amen.
Amen.
Il y a plusieurs années, il y a d'ailleurs même assez longtemps de ça, dans les premières années où nous sommes venus vivre ici au Burundi, vous savez, c'est un changement de vie, d'alimentation, de toutes ces choses-là. Et on était donc tous les enfants, 6 enfants, Olivier et moi, pasteur Olivier et moi. On était 8 dans la maison. Et tout le monde allait bien. Mais moi j'avais un problème que les autres n'avaient pas. Et j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais vraiment d'une façon vraiment effrayante. J'ai mes cheveux qui commençaient à tomber. Et il y avait à Bujumbura une dame que nous avons rencontrée, une américaine, qui avait quelques années de plus que moi. Et cette dame-là, elle avait aussi ce problème. Moi, ça ne se voyait pas encore parce que j'ai beaucoup de cheveux. Mais elle, ça se voyait. Et ça faisait peur parce qu'on voyait vraiment carrément son crâne sur le côté comme ça. On voyait son crâne. Et moi, je voyais que mes cheveux tombaient et tombaient et tombaient. Et le diable n'arrêtait pas de me dire, tu vois, bientôt tu vas être comme elle. Je vous assure que le diable est méchant. Et moi, j'avais vraiment peur. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Parce que je me disais, de toute façon, moi, je ne peux rien y faire. Je n'ai même pas envie d'aller voir un médecin. Parce que d'abord, je vais perdre de l'argent. Et au fond, moi, je sais qu'il ne pourra rien y faire non plus. Alors j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ce problème? Parce que je voyais qu'à la maison, j'étais la seule à avoir ce problème. Et je vous assure qu'à la maison, c'est moi qui ai les meilleurs cheveux. Alors je
ne
comprenais pas, je me disais, c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas finir chauve. C'était vraiment affreux. Et le Seigneur m'a dit une chose simple. Change de shampoing. Il
ne
m'a pas dit, fais le tour du monde dans une fusée.
Il ne
m'a pas dit non plus, va voir tel serviteur de Dieu qui va prier pour toi, tu seras
guéri.
Il ne m'a pas dit des choses difficiles ni compliquées. Change de shampoing. Alors, j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai agi sur ce qu'il m'a dit. J'ai changé de shampoing. C'était vraiment simple. Parce que j'achetais un shampoing ici, local, qui soi-disant venait d'Europe, mais qui venait sûrement pas d'Europe, apparemment. Parce que c'était quand même moins onéreux que les shampoings de marque qu'on trouve ici. Alors, j'ai repris un shampoing que je connaissais. Le jour où j'ai repris cela.
Mes
cheveux, la chute de mes cheveux a diminué de moitié. Et après deux semaines, c'était fini. C'était complètement terminé. Vous voyez, ce n'est pas une perruque, je vous assure. C'était entièrement terminé. Seigneur, j'ai fixé mes yeux sur le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé. J'ai agi sur ce qu'il m'a dit. Le Seigneur ne te dira jamais saute sur un pied tout au long de la ville. Parce que même les plus sportifs, je ne sais pas s'ils pourront faire ça.
Toi, tu ne
diras jamais des choses bizarres ou compliquées. Mais il te dit la bonne chose à faire au bon moment. Amen.
Amen.
Et pour moi, c'était cela. C'était cela, tout simplement. Et je n'en ai pas parlé. J'en ai parlé seulement avec le pasteur Olivier, mais j'en ai pas parlé à toute la ville.
Parce que
là aussi, il y a un problème que beaucoup de personnes ont. C'est que quand tu es dans une situation, tu cherches Dieu, Dieu te parle, alors tu as besoin d'en parler aux autres. Parce que tu n'as pas tellement confiance dans ce que le Seigneur te dit. Et
tu as
besoin d'une confirmation
chez
X, chez Y, chez Z, ou chez je ne sais qui d'autre. Tu veux que on te dise, ah oui, oui, vraiment, ça c'est le Seigneur qui t'a dit. C'est une bonne parole, vas-y, fonce. Et quand on fait cela, je vous assure qu'on se met dans des problèmes. Parce que les trois quarts du temps, les gens ne sont pas capables de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé dans une période de sa vie où elle a mis sa foi en action pour un travail. Cette personne avait vraiment un désir par rapport à un travail particulier, une vision, et une vision qui venait de Dieu. Et cette personne a été guidée par le Seigneur à semer. Qu'est-ce que ça veut dire semer? Ça veut dire donner ce qu'elle avait comme semence pour son travail. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de changer de shampoing forcément. C'est juste une question de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et elle a agi sur ce que le Seigneur a dit. Et ce travail n'est pas venu après une semaine, ni deux semaines, ni trois semaines, ni un mois, ni deux mois, ni trois mois. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et à chaque fois, il y avait des personnes qu'elle connaissait qui lui disaient, alors ça y est, tu as déjà eu le travail que tu désirais. Pourtant, elle n'avait pas raconté tous ces détails, bien sûr. Et elle disait, je sais que ce travail est à moi et je vais l'avoir. Et comme le temps et ça passait vraiment, c'était très très long, au bout d'un moment, il y a une personne qui lui a dit, alors ça en est où? Elle a dit, c'est en route. Et l'autre il lui a dit, j'espère.
Vous
voyez, quand on dit comme ça, j'espère, ça veut dire pfff. Mon pauvre ou ma pauvre ne croit vraiment pas que ça va arriver. Mais bon. Et cette personne n'avait pas été rechercher un conseil chez une autre
ou
chez un autre. Mais cette parole est venue. Et elle est venue de quelqu'un que je connais très bien, que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance et que j'apprécie énormément. Mais c'était une parole tueuse de foi. Donc la question n'est pas d'aller chercher chez les uns ou chez les autres une confirmation
ou
vraiment, oui, le Seigneur a raison de te dire cela,
ou
le Seigneur franchement franchement, non, il exagère. Tu ne devrais même pas écouter ça.
Vous savez,
la foi, c'est une question relationnelle, personnelle, entre ton Dieu et toi. Ça ne concerne personne et ça ne regarde personne. Et cette personne, quand elle a entendu cette parole, elle croyait toujours parce qu'elle elle croit vraiment dans ce que Dieu lui dit, mais ça l'a affecté quelque part. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle a le travail pour lequel elle a cru. Ça a pris plus de 6 mois, mais elle l'a.
Amen.
Je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu. Quand on lit dans le deuxième livre des rois, l'histoire d'une femme qui a vécu cela d'une façon vraiment frappante.
Vous
savez, le Seigneur n'a jamais dit que c'était facile.
Il
n'a jamais dit d'ailleurs que ça serait facile. Mais il a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je recherche ce passage, on va le retrouver. Voilà.
Deux
Rois chapitre 4. C'est l'histoire donc d'Élisée, le prophète Élisée, et d'une femme qui habitait donc à Sunem. Cette femme était mariée et son mari était âgé. Et à chaque fois que Élisée passait dans la ville où habitait cette femme, elle l'invitait à manger chez lui. Et elle avait même fait construire une chambre au-dessus de sa maison
où
le prophète pouvait se reposer, se retirer, se reposer, avoir du temps où il pouvait être tranquille, prier. Et à cause de cette action, le Seigneur l'a béni. Elle a reçu une récompense parce qu'elle a honoré le serviteur de Dieu. Et en honorant le serviteur de Dieu, elle a honoré Dieu lui-même. Juste une petite parenthèse. Je ne vois pas comment on peut dire qu'on honore Dieu quand on méprise les serviteurs de Dieu. Si on honore Dieu, on honore aussi ses serviteurs. Amen. Et cette femme a reçu une promesse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette promesse, c'était que eh bien, l'année suivante, à la même époque, elle aurait un fils. Et tel que cela lui a été dit, tel que cela est arrivé exactement, dans les moindres détails, l'année suivante, elle a eu cet enfant. Et l'enfant a grandi. Et un jour, l'enfant qui était avec son père dans les champs, c'est plein de maux de tête. On a pris le jeune enfant, on l'a emmené à la maison. Il est resté sur les genoux de sa mère pendant quelques temps. Et il est mort. Je pense qu'il n'y a rien de plus irrémédiable que la mort.
Amen.
Humainement parlant, la chose qui est vraiment irrémédiable, c'est la mort. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, il peut y avoir des choses difficiles. Mais on peut toujours se dire, on va essayer d'arranger cette situation, de changer telle et telle chose, de trouver une solution quelconque. Mais face à la mort, l'homme n'a aucune solution, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que va faire cette femme? Elle a pris une décision. Elle va agir. Agir sur sa foi. Parce qu'elle sait, dans son cœur, que cet enfant lui a été donné par le Seigneur.
Amen.
Et ce que le Seigneur donne, personne ne peut lui reprendre. Ça, c'était sa foi. Et sa foi a déterminé une action. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle va dire à personne que l'enfant est mort. Parce qu'elle parle selon ce qu'elle croit. Et elle agit selon ce qu'elle croit également. Et selon ce qu'elle a dit. Donc, elle, on va lire verset
22.
Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle répondit, « Tout va bien. »
Ngo ahamagara umugabo wiwe aramubwira ati ntabaza umuhungu umwe n'indogobwa imwe nkwakwanye nikubitire kwa wa muntu w'Imana ndagarutse aramwishura ati niki kikujanye y'uwo munsi ko atari mu mboneko z'ukwezi canke ngo habe ku isabato nawe ati pfa kundeka ngende nuko mugore ashira amatandiko ku ndogobwa abariro umuntu ati yobora tugende nitugenze buhoro shiti mubwiye.
Dans la situation actuelle et visible, rien n'allait bien. Mais pourtant, elle n'était pas en train de mentir. Dieu ne nous demande pas de mentir. Amen. Mais il nous demande de confesser et d'agir sur notre foi. Parce qu'elle savait, qu'elle savait que le Seigneur allait faire quelque chose. Et si elle n'a rien dit à son mari, ni à personne d'autre, c'est parce qu'elle savait que si elle se permettait de dire ce qui s'était réellement passé, le mari allait s'occuper des funérailles de l'enfant. Elle agissait dans son niveau de foi à elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas partagé avec d'autres. Quand le Seigneur te parle à toi personnellement, soit pour une direction dans ta vie, soit pour une réponse par rapport à quelque chose pour lequel tu pries, ne va pas en parler aux autres. Les autres ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Parfois, certaines personnes peuvent le comprendre. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent pas. Et si tu commences à leur raconter ces choses, ils risquent d'être des tueurs de ta foi. Involontairement, bien sûr. Sans aucune méchanceté. Et cette femme, au fond d'elle-même, elle savait ces choses. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, mais elle a agi. Elle a pris un âne et elle a fait 27 kilomètres. C'était pas 5 minutes de route. C'était plus d'une heure de route pour aller voir le prophète. Et quand elle arrive là, le serviteur du prophète lui dit, est-ce que ça va? Au verset 26, elle va répondre bien. Mais quand elle arrive devant Élisée, là elle tombe à ses pieds et elle lui dit la chose qu'elle lui avait dit bien avant. Quand Élisée lui a donné cette parole, tu auras un fils, elle a dit à Élisée, ne me trompe pas. Et elle reprend exactement ses paroles. Elle lui dit, je t'avais dit, ne me trompe pas. Et c'est alors qu'Élisée comprend qu'il y a un problème.
On
voit, cette femme, c'est une femme de foi. Elle croit, elle agit. Et on voit aussi du même côté, Élisée est un homme de foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va jusqu'à cet enfant. Il va dans la maison de cette femme. Il rentre dans la chambre où se trouve l'enfant. Il ferme la porte. Il prie pour cet enfant. Et l'enfant ressuscite. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais été que cet enfant meure. Dieu est le Dieu de la vie, n'est pas le Dieu de la mort. Et parfois, il y a comme ça des circonstances qui se produisent dans la vie de tous les hommes. La question, ce n'est pas d'accepter les circonstances avec résignation. Ou pire même, de dire, ah ben ça, c'était la volonté de Dieu. Moi, j'ai déjà entendu des choses pareilles. Une fois, une dame qui avait perdu un enfant comme ça,
à la naissance,
cette dame perd son enfant. Et son pasteur qui va lui rendre visite et qui lui dit, ça, c'était la volonté de Dieu. Dieu a permis ça dans ta vie pour que tu puisses ensuite, une fois que tu auras surmonté ta peine, être quelqu'un qui soutient les autres. Et quand cette femme a entendu cela, ça a suscité tellement de colère en elle. Elle a dit, mais moi j'aurais bien pu aider les autres, c'était pas la peine de tuer mon enfant. Elle était furieuse et contre Dieu et contre son pasteur. Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. Il est le Dieu des solutions, il n'est pas le Dieu des problèmes. Mais maintenant, jusqu'où va ta foi pour voir des solutions?
Vous
savez, bien souvent, on marche avec Dieu, on voit le Seigneur agir dans certains domaines, dans les domaines où on croit. Mais il y a parfois des domaines où notre foi n'est pas vraiment agissante. Et c'est alors que l'on perd certaines choses. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de ce que l'on pense, de ce que l'on demande. C'est à nous d'être à son écoute. Pourquoi est-ce que tu veux toujours que ce soit Dieu qui soit à ton écoute? Il est de toute façon à notre écoute. Dieu n'est pas comme nous. Nous les hommes, nous sommes souvent distraits. On n'écoute pas, on écoute mal. Mais Dieu écoute, il entend parfaitement bien. Il est à notre écoute. Et vous savez, pour qu'une relation réussisse, il faut que ça soit une relation à double sens. Tu parles, on t'écoute. Et on te parle. Et toi aussi, de ton côté, tu écoutes. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.